Chapitre 25. Il le trouva assis dans un fauteuil, la tête penchée sur la poitrine, les bras ballants. Il semblait frappé de stupeur. Ce fut seulement quand Louis le toucha presque qu'il releva lentement la tête et regarda autour de lui avec effarement. Alors, étendant les deux bras en avant, comme s'il voulait parer un coup qui le menaçait, « Quelle journée » dit-il, « quelle journée !» Puis, saisissant la main de Louis et l'attirant près de lui, « Ah, mon ami !» s'écria-t-il, « ne me quitte pas, reste avec moi, reste près de moi !» Louis, effrayé, se demanda avec inquiétude si ce n'était pas un mal au lieu d'un bien que ces deux visites avaient produit. Lequel, du médecin ou du prêtre, avait été trop loin? Tous deux, peut-être. Mais ce qu'il y avait de certain, c'était que le marquis faisait peur à voir et encore plus pitié. Machinalement, il répétait « Reste près de moi! Reste près de moi !» et il lui serrait la main. Peu à peu, cependant, le calme se fit. Il regarda autour de lui en osant tenir ses yeux levés. À plusieurs reprises, il soupira et chaque fois avec plus de force. La crise d'abattement était passée. Pendant assez longtemps, ils restèrent assis en face l'un de l'autre, sans que le marquis parlât et sans que Louis osât aborder l'entretien. Devait-il persister dans son plan? Ne devait-il pas au contraire en rester là? Mais, à mesure que son cousin recouvra ses forces, il se rassura. Cette faiblesse dont il venait d'être témoin était celle qui suit les douloureuses opérations. Il devait achever ce que ces deux terribles chirurgiens, le médecin et le prêtre, avaient commencé. « Quand tu as été parti, dit enfin le marquis, j'ai reçu la visite du docteur Gilet. Gilet est un cynique, il ne respecte rien. Je me suis demandé un moment s'il ne voulait pas m'effrayer. Si tel était son but, il a pleinement réussi. Il prétend que je dois choisir entre la vie et une personne qui m'est chère. » Selon son sentiment, si je reste dans les termes où je suis avec cette personne, je n'en ai pas pour 6 mois à vivre. Au contraire, si je m'en sépare, il n'y a pas de raison pour que je n'atteigne pas la vieillesse. Cette opinion du docteur Gilet ne date pas d'aujourd'hui. Il me l'a communiquée il y a quelque temps déjà, dans une expertise où nous nous trouvions ensemble. Il voulait que je vous en fisse part. Je lui ai répondu que je ne venais pas à Rudemont et je l'ai engagé à vous avertir lui-même, car un pareil avis donné par un homme tel que lui était grave. Il l'a fait, d'une manière terrible. Ces médecins n'ont pas de cœur. Se séparer d'une personne aimée, cela leur paraît naturel et facile. C'est que pour eux, la vie est tout. Habitués à couper les bras et les jambes, à faire les opérations les plus atroces pour prolonger les jours d'un malade, ils ne comprennent pas qu'on hésite à éloigner une maîtresse quand la vie dépend de cet éloignement. En dépend-elle vraiment? Louis ne répondit pas. C'était assez que le marquis, malgré sa passion, en fût arrivé à se poser cette question. Il crut que, pour le moment, le mieux était de le laisser aux prises avec ce doute, qui, pour se manifester ainsi, devait être bien fort. « Comme si ce n'était pas assez de cette visite, continua le marquis, j'en ai reçu une seconde qui ne m'a pas moins profondément troublé, celle de M. Marbeuf. N'y a-t-il pas quelque chose de bizarre dans cette coïncidence ? Si ces visites se sont succédées, c'est qu'on vous a su libre. » Ceux qui vous aiment ont voulu vous voir quand ils ont appris qu'ils pourraient arriver jusqu'à vous. Et qui les empêchait de venir depuis mon retour? La présence ici d'une personne avec laquelle ils ne pouvaient pas se rencontrer et aussi le soin jaloux que cette personne met à fermer votre porte. Louis, mon ami! Je ne dis que ce dont je suis certain. Tu connais M. Marbeuf? Continua le marquis, ne voulant pas rester sur ce sujet. « Tu sais combien il est indulgent, tu sais aussi quelle amitié il a pour moi. Eh bien, son indulgence et son amitié m'ont été encore plus cruelles que l'avaient été les brutalités de Gilet. Ah, mon enfant, n'oublions jamais Dieu car terrible est le jour où nous voulons revenir à lui. » Brusquement, il ferma les yeux et avec ses deux mains, il se cacha le visage, comme pour ne pas voir les flammes de l'enfer qui, tout à coup, se seraient allumées devant lui. « Comme gilet, continua-t-il après un moment de silence, « le bon monsieur Marbeuf ordonne une séparation. L'un parle pour sauver ma vie, l'autre pour sauver mon âme. Et vous hésitez ? Mais je l'aime ! Ce que je n'ai pas pu dire à ce médecin sans cœur, ni à ce vénérable prêtre qui ne m'aurait pas compris, je te le dis à toi, qui es jeune et qui sens la passion. Je l'aime. À 20 ans, le cœur est mobile, on est curieux, on est changeant. À mon âge, au contraire, on se cramponne à la passion d'une main convulsive, comme celui qui tombe du haut d'un arbre s'accroche à tout ce qui peut ralentir sa chute. Le vide, le vide. À la pensée de me séparer d'elle, je me sens anéanti. Trop de liens m'attachent à elle. Ce n'est pas seulement par le cœur qu'elle me tient, c'est encore par 1000 petites choses de la vie intime. Ils me disent, celui-ci, soyez fort, celui-là, soyez chrétien. Oui, je voudrais être l'un et l'autre, je le voudrais, mais je ne peux plus vouloir, je ne suis plus qu'un enfant, moins qu'un enfant, un vieillard débile. » Louis, ému par ce cri désespéré, se reprochait presque d'avoir mis en œuvre des moyens aussi cruels, lorsque le marquis lui-même, en parlant de Clémence, le fortifia dans sa résolution. « Dans cette séparation, il ne s'agit pas de moi seulement, il s'agit d'elle encore. Que ne souffrirait-elle pas, car elle aussi, elle m'aime. » À ce mot, Louis prit brusquement la parole, et de telle sorte que le marquis ne put pas l'interrompre. « Vous avez vu, s'écria-t-il, avec quelle sympathie je vous ai écouté. Mais il est des choses que je ne puis entendre sans protestation. Vous croyez que cette personne vous aime, et c'est parce que vous avez cette conviction que vous voulez lui sacrifier votre vie et votre âme. Eh bien, il faut que je vous prouve que depuis qu'elle est entrée dans ce château, elle a poursuivi par tous les moyens un but intéressé et que ce but n'avait rien de commun avec l'amour. » Alors il expliqua au marquis le rôle joué par Clémence tel qu'il se l'était expliqué à lui-même. Mais cette explication, au lieu d'être sèche, fut éloquente et passionnée. Plusieurs fois, le marquis voulut l'interrompre en protestant du dévouement de Clémence et de son désintéressement dont il avait des milliers de preuves. Mais malgré tout, malgré les colères, malgré les supplications, Louis poursuivit sa démonstration. « Vous avez vu, dit-il en terminant, qu'alors qu'on vous affirmait qu'on allait à Paris auprès d'une tante mourante, on allait simplement à Bagnoles pour resserrer l'emprisonnement de Denise. » C'est là un témoignage entre 100 autres qui doit vous montrer quelle foi vous devez avoir en cette parole. Maintenant, je vais vous prouver que ces machinations pour éloigner Denise et m'éloigner moi-même de vous s'enchaînent et se continuent depuis longtemps. Vous m'avez dit ce matin que vous n'aviez jamais voulu m'empêcher d'aller m'expliquer près de vous, en Italie, et que vous ne m'aviez jamais écrit cette défense. « Lisez cette lettre que j'ai prise chez moi et voyez si cette défense ne s'y trouve pas en termes formels. Sans doute, vous n'avez pas écrit vous-même cette lettre, mais vous l'avez signée et au-dessus de votre signature, on a écrit le contraire de ce que vous aviez dicté ou expliqué. Est-ce clair cela ?» Il mit la lettre sous les yeux du marquis. Puis, après l'avoir forcé à lire le passage où cette défense était exprimée, il continua. « Et voilà la femme pour laquelle vous voulez vous sacrifier, pour laquelle vous refusez d'écouter les conseils du docteur Gilet et les exhortations du vénérable monsieur Marbeuf. Elle aurait trop à souffrir, dites-vous. Et nous, mon cousin, ma mère, moi, Denise qui était seule au monde et qui vous aime si tendrement, « n'avons-nous pas souffert quand vous avez été entraîné par cette femme à nous éloigner de vous ? Vous êtes attaché à elle par des liens bien puissants, dites-vous. Cela, je le comprends, et je vous plains de tout mon cœur d'être obligé de briser ces liens. Mais ceux qui vous attachent à la vie ne sont-ils pas puissants aussi? Cette séparation déchire votre cœur. Cela aussi, je le comprends, mais à condition que vous ne parlerez pas du vide qui vous épouvante. Car cette rupture décidée, ce n'est pas dans le vide que vous tombez, c'est dans les bras de votre famille. Nous nous pressons autour de vous, ma mère, moi, Denise. Nous vous entourons de soins et de tendresse. Vos amis, écartés de ce château, vous reviennent, votre santé sera fermée, votre conscience sera sûre, vous vivez heureux au milieu de ceux qui vous aiment et vous honorent. Tais-toi, tais-toi ! S'écria le marquis. Louis se tut, en effet, laissant à la réflexion le soin de revenir sur ce qu'il avait dit et de l'achever. Pendant une heure, ils restèrent silencieux. Mais, aux contractions qui traversaient le visage du marquis, au mouvement de ses mains qui s'agitaient sans cesse, il était évident qu'un douloureux travail intérieur s'accomplissait en lui. Pendant ce temps, Louise était assise à une table et en quelques lignes, il avait écrit un projet de lettre pour Clémence, sachant qu'en pareille circonstance, le moyen de rupture n'est pas moins difficile à décider que la rupture elle-même. Lorsqu'il pensa que la réflexion avait eu le temps d'agir sur son cousin, il lui mit sous les yeux ce projet de lettre, dont les termes étaient aussi convenables, aussi dignes qu'ils pouvaient l'être. Il s'attendait à une discussion nouvelle et il s'y était préparé. Mais, après avoir lu cette lettre, le marquis ne lui dit que ces quelques mots « Va à Condé me chercher le docteur Gillet et M. Marbeuf. Il faut qu'ils viennent. Il le faut absolument. » Louis regarda la pendule. Il était 4 heures. Il avait encore le temps d'aller à Condé et de ramener le médecin et le chanoine avant le retour de Clémence. Il fit atteler la calèche et partit grand train. « Le marquis veut que je lui assure 30 années de vie et que M. Marbeuf lui garantisse le salut éternel, » dit le docteur Gillet lorsque Louis lui eut expliqué ce qu'il attendait de lui. « Je pars avec vous. Si le chanoine me seconde, le succès est assuré. » Mais quelle affaire pour le vieux prêtre de retourner à Rudemont une seconde fois! Cependant, il se laissa entraîner. Les choses se passèrent pour cette seconde visite dans le même ordre que la première. Le médecin entra tout d'abord, le prêtre ensuite. Il était 9 heures du soir lorsqu'il sortit. Avec quelle angoisse Louis attendait! D'un moment à l'autre, Clémence pouvait arriver. « Dieu a exaucé vos prières, » dit le vieux chanoine. « Entrez, mon ami, votre lettre est signée. » Louis trouva le marquis dans un état pitoyable. Du bout de la main, celui-ci indiqua son bureau sur lequel se trouvait la lettre et un bon de 800 000 francs au nom de Madame Clémence Beaujonnier à toucher chez M. Pénel, notaire. « Tu remettras cette lettre et ce bon à Madame Beaujonnier, » dit le marquis. « Tu lui expliqueras que j'ai promis à Dieu de ne plus la revoir. Sois bon pour elle. » « Tu es le maître ici. » Disant cela, de grosses larmes roulèrent sur ses joues.